Bonjour Thomas Vescovi.
Bonjour.
Vous êtes historien, doctorant en études politiques à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes l'auteur de « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » paru aux éditions La Découverte. L'armée israélienne a lancé hier une vaste offensive à Jénine. Des tirs, des bombardements, des hélicoptères de combat, des dizaines de blindés mobilisés et 10 morts. Selon le gouverneur de la ville, l'armée israélienne encercle là aujourd'hui un hôpital où 200 personnes sont retenues. Le ministre israélien de la Défense parle d'un changement dans l'approche de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire en fait que pour satisfaire une grande partie de l'électorat de la droite nationaliste, Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont mobilisé les moyens de communication pour montrer qu'en fait la guerre ne s'arrêtait pas, elle se déportait de la bande de Gaza vers la Cisjordanie.
Donc une conséquence de l'accord, de la trêve qui a été conclue avec le Hamas, libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens qui étaient détenus en Israël ?
C'est en tout cas comme ça que moi je l'analyse. Il faut rappeler que lorsque l'accord de cessez-le-feu a été signé, nous étions nombreux à estimer que Netanyahou avait dû sûrement obtenir des contreparties de la Maison-Blanche. Et là, en l'occurrence, on se demande si la contrepartie n'est pas justement le fait que Donald Trump lui permettait de mobiliser ses troupes du côté de la Cisjordanie, donc à l'encontre de l'autre territoire palestinien occupé, afin de poursuivre d'une autre manière la guerre en renforçant les moyens de pression sur la population palestinienne et les groupes armés qui se trouvent encore en Cisjordanie.
Mais on rappelle qu'en principe, Jénine est placée sous le contrôle de l'autorité palestinienne. L'armée israélienne agit comme elle le souhaite en Cisjordanie.
Totalement. Même depuis l'accord d'Oslo où il avait été décidé de découper la Cisjordanie en trois zones A, B et C. La zone A, comme vous l'avez dit, est une zone où normalement l'administration et la sécurité est gérée par l'autorité palestinienne. Dans les faits, l'armée d'Israël peut pénétrer comme elle souhaite dans la zone. Tout ça tout simplement parce que l'autorité palestinienne, son existence dépend également du bon vouloir de l'État d'Israël. Donc à partir de là, on voit bien à quel point cette autorité palestinienne agit dans bien des cas davantage comme un proxy de l'armée d'occupation plutôt que comme une forme d'autorité souveraine.
Alors là, lors de cette opération qui a été lancée hier et qui se poursuit aujourd'hui, on apprend que l'armée israélienne a rasé au bulldozer un certain nombre de routes, notamment toutes celles qui mènent à un hôpital. Ça, ce sont des images qu'on a vues à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois, des bulldozers en Cisjordanie. Qu'est-ce qu'ils détruisent et à quels endroits de ce territoire ?
On voit à quel point est-ce que Israël essaie en fait de faire payer à un certain nombre de villes, notamment Naplouse, Tul Karem, Jénine, le fait qu'elles continuent à abriter en leur sein des groupes armés qui, contrairement à ce que la communication israélienne dit, il ne s'agit pas de groupes du Hamas, il s'agit de groupes de jeunes Palestiniens qui ont décidé de reprendre les armes dans le cadre d'une lutte contre l'occupation israélienne. Et dans ce cas-là précis, Israël décide de démontrer que lorsque vous déciderez de vous réorganiser en groupe armé, nous interviendrons de la manière la plus forte possible en détruisant autant qu'il se peut. Vous avez vu comme moi que des routes ont été détruites. On doit s'interroger. Dans quelle mesure est-ce qu'une lutte qui se prétend être antiterroriste, parce que c'est comme ça que c'est présenté, en quoi est-ce qu'elle a l'utilité de détruire des routes, d'encercler des hôpitaux, d'attaquer parfois même des écoles ? Ça doit nous interroger profondément sur les images qu'on perçoit de la Cisjordanie aujourd'hui.
Vous avez mentionné ces groupes de jeunes Palestiniens que l'armée israélienne dit visés. Qui les compose s'ils ne sont pas affiliés au Hamas ou à d'autres groupes plus anciens, si je peux dire ?
En fait, vous avez eu depuis maintenant 4 à 5 ans en Cisjordanie une évolution d'une partie de la jeunesse palestinienne, minoritaire mais existante et très active, qui considère que finalement les anciennes générations qui avaient délaissé en partie la lutte armée pour d'autres formes de lutte, notamment non violente et l'engagement dans le cadre d'ONG internationales pour dénoncer la politique israélienne dans différentes instances internationales, eh bien ces générations-là finalement ont échoué dans leur but puisque l'occupation n'a pas cessé, l'armée israélienne continue jeu d'une impunité et la colonisation progresse. Et
donc notamment le Fatah
Oui, évidemment, il y a vraiment le sentiment que la politique menée par l'autorité palestinienne et le Fatah est en échec et qu'il faut rompre avec celle-ci pour reprendre, si vous voulez, ce que les premières générations palestiniennes avaient fait, c'est-à-dire les armes et mener une lutte armée, précisément en considérant que la lutte armée serait le seul moyen pour les Palestiniens de continuer à exister et qu'on parle d'eux, notamment au niveau médiatique. Et donc, dans différentes villes, on a eu des jeunes Palestiniens qui se sont rassemblés. Alors effectivement, hein, certains individuellement ou par petits groupes peuvent être affiliés à telle ou telle faction, mais les groupes en tant que tels, c'est ça que je veux dire, n'ont pas l'appellation Hamas, Fatah ou autre groupe. Ils sont vraiment dénommés par rapport au lieu où ils sont installés et où ils vivent.
Et est-ce qu'il y a une certaine unité ou est-ce qu'il y a des moments où ils se regroupent ou bien ce sont vraiment des petites unités très disparates ?
Il faut bien comprendre que la Cisjordanie, la configuration de l'occupation fait qu'il est très compliqué pour ces groupes en fait, de créer une forme d'unité ou de front commun. La Cisjordanie est entièrement occupée par l'armée israélienne, vous avez des checkpoints partout, vous avez des moyens de surveillance qui sont accrus via différentes technologies. Hein. Vous savez, la Cisjordanie, c'est un peu comme un laboratoire en fait, pour le complexe militaro-industriel israélien où différentes techniques de surveillance sont utilisées sur la population palestinienne. À partir de là, il faut bien comprendre que ces jeunes, même quand ils prennent les armes, ils savent pertinemment à quel point est-ce que leur destin est quasiment scellé et ils n'auront pas la force, disons, de faire face à l'armée israélienne. Il s'agit vraiment d'une espèce de moyen désespéré d'exister, de faire entendre leurs droits et leurs causes.
Alors il y a ces groupes armés, les opérations menées par l'armée israélienne et puis en parallèle la colonisation qui se poursuit malgré des violences de plus en plus grandes contre les populations palestiniennes, des violences qui sont menées par les colons qui ne sont pas punis. Est-ce qu'on peut parler, comme le fait ce matin le journal Haaretz, de terrorisme juif ?
Entièrement, je vais reprendre exactement les termes de Haaretz, et cette histoire-là nous montre en fait nous montre ce qu'est la réalité en Cisjordanie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une population palestinienne qui, dès lors qu'elle va prendre les armes et enclencher des formes d'action, elle va subir une répression d'une férocité sans nom, là où à l'inverse, du côté des populations des colonies juives israéliennes, eh bien, ils ont une latitude quasi totale d'agir, de créer du désordre, d'attaquer, de brûler. Ils ne sont jamais réellement inquiétés. Et donc, il y a une forme d'absence totale de protection pour les Palestiniens. C'est un point important qui explique notamment la recrudescence des groupes armés palestiniens. Il y a une forme d'absence de protection, donc ils essaient de se protéger eux-mêmes. Et en même temps, il y a l'absence totale de justice. Et c'est ça le point, à mon avis, central. C'est que dès lors qu'on sent qu'il n'y a pas de justice qui puisse s'appliquer à nous, eh bien, il y a une espèce de sentiment de vouloir se faire justice soi-même. Et c'est comme ça qu'on explique notamment la reconnaissance des groupes armés, là où précisément les colons, à l'inverse, ont à leur côté l'armée israélienne et savent pertinemment que lorsque des Palestiniens vont agir contre eux, il y aura tout un ensemble de dispositifs sécuritaires qui va s'enclencher pour punir justement les auteurs.
Des sanctions avaient d'ailleurs été prises par l'administration Biden contre certains colons. Elles ont été annulées par Donald Trump dès sa prise de pouvoir. Donc là encore, une ligne que vous évoquiez tout à l'heure de l'administration américaine. Je vous remercie beaucoup Thomas Vescovi d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes historien, doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles. Et puis je redonne aussi le titre de votre livre paru aux éditions de La Découverte, « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël ». Merci beaucoup.